Afrique, les infos. À Washington, Henri Francisque.
11h à Conakry, midi à Libreville. Bienvenue à notre journal. Le président gabonais Ali Bongo Ondimba a déclaré hier soir qu'il avait décidé de donner toute sa part de l'héritage de son père Omar Bongo Ondimba à la jeunesse gabonaise et que cette donation serait versée à une fondation pour la jeunesse et l'éducation. Annonce faite dans son discours à l'occasion du 55e anniversaire de l'indépendance du Gabon. Ali Bongo a souligné que les jeunes sont tous, et je cite, « les héritiers d'Omar Bongo Ondimba ». Rappelons que la succession d'Omar Bongo décédé en 2009 et qui compte 54 héritiers déclarés n'est pas encore réglée. Les contours de l'héritage sont encore mal cernés selon l'AFP, mais les actifs identifiés atteindraient déjà plusieurs centaines de millions d'euros. Crise au Burundi. Beaucoup de Burundais se sont réfugiés à l'étranger pour échapper aux violences de leur pays. Et le Rwanda en a accueilli un grand nombre. Plus de précisions avec notre correspondant à Kigali, Maurice Magorane.
La crise qui s'écoule au Burundi depuis le 25 avril, date de l'annonce de la candidature de Pierre Nkurunziza au présidentiel, a contraint à l'exil pas mal de Burundais de différentes catégories. Plus de 101 personnes ont fui le Burundi vers le Rwanda voisin. Parmi eux, il y a les leaders de l'opposition, les membres de la société civile, et les journalistes. Ils racontent tous la même histoire. Victimes de menaces, d'autres ont été victimes des attaques des groupes armés. C'est le cas du journaliste Jean-Baptiste Bileha de Bonesha FM qui a reçu une balle dans la poitrine. Les journalistes ne sont pas les seuls à avoir été contraints à l'exil. Le Rwanda est belge, également pas mal de politiciens burundais exilés, dont Chauvinet Mugwengweso de IPD Zigamibanga qui compte continuer sa lutte même en dehors de son pays. Politiciens, journalistes et membres de la société civile, ils ne comptent pas baisser les bras dans l'exil. Ils continuent à militer. Les 70 journalistes qui se sont réfugiés au Rwanda ont créé une radio qui émet sur le web. Alexandre Nyongeko, président de l'Union burundaise des journalistes.
Nous savons que le public burundais est privé d'information et depuis le 14 mai 2015 d'une information indépendante après la destruction des médias indépendants. On a décidé de se mettre ensemble, bien évidemment, pour que nous puissions faire notre contribution pour que le public burundais puisse être informé de ce qui se passe dans le pays.
À ce jour, on ne compte aucun mouvement des retours des réfugiés burundais vers leur pays. Et la situation au Burundi reste tendue. Le Rwanda est souvent reproché de soutenir l'opposition burundaise, étant donné que la majorité de l'opposition active se trouve au Rwanda. Maurice Magorane, VOA Afrique, Kigali.
Conflit du Soudan du Sud, pas de conclusion d'accord de paix hier soir à Addis Abeba entre le gouvernement et les rebelles sud-soudanais. Le président Salva Kiir résiste à un ultimatum de la communauté internationale et refuse pour le moment de signer le document proposé par la médiation sous-régionale de l'IGAD, l'autorité intergouvernementale pour le développement de l'Afrique de l'Est. Accord soutenu par l'Union africaine, la Troïka, États-Unis, Grande-Bretagne, Norvège, plus l'Union européenne, l'ONU et la Chine. Mais selon la médiation, Salva Kiir devrait revenir dans 15 jours à Addis Abeba pour finaliser l'accord de paix déjà signé par les rebelles. Eric Manirakiza.
C'était une opportunité pour nous de mettre fin à la guerre, dit Riek Machar, chef rebelle, en affichant sa satisfaction d'avoir signé le texte d'accord malgré des imperfections. Pour lui, aucune raison ne peut expliquer un délai supplémentaire demandé par le président Salva Kiir. En dépit de son opposition, M. Salva Kiir a participé à cette cérémonie d'Addis Abeba, non complète sans la signature du gouvernement selon les termes du médiateur en chef, Seyoum Mesfin. Car Pagan Amom, secrétaire général du parti au pouvoir dont fait partie Salva Kiir, l'a signé. En présence de la présidente de la Commission de l'Union africaine, Nkosazana Dlamini Zuma, du premier ministre éthiopien Haile Mariam Desalegn et du président Kenya Uhuru Kenyatta, le médiateur a affiché son optimisme pour décrocher la signature du gouvernement. Le gouvernement travaille désormais à la paix, a souligné Seyoum Mesfin, précisant que Salva Kiir reviendra dans 15 jours à Addis Abeba après une consultation dans ses rangs sur les réserves émises. En cas de refus catégorique de signer l'accord, le gouvernement risque de sanctions ciblées, entre autres, un embargo sur les armes, des interdictions de voyager et des gels d'avoir à l'étranger.
La Voix de l'Amérique en direct de Washington.
Au Mali, le gouvernement va saisir l'Union africaine et le Conseil de sécurité de l'ONU pour la prise de sanctions contre les responsables de la toute dernière violation du cessez-le-feu dans le nord à Kidal. Pour sa part, la MINUSMA, la mission de l'ONU sur place, a établi une zone de sécurité autour de la ville de Kidal pour prévenir de nouveaux affrontements. Plus de détails avec notre correspondant à Bamako, Kassim Traoré.
La MINUSMA réitère sa ferme condamnation des affrontements armés qui ont opposé la plateforme et la coordination des mouvements du Lazawad. Ces actes constituent, selon la MINUSMA, une violation flagrante du cessez-le-feu et de l'accord de paix. Mbaraga Kasarangwe, adjointe au représentant spécial de la MINUSMA.
Je pense que une fois que les accords sont signés, une fois que tout le monde met la signature, c'est que tout le monde s'accorde à ce que on entre dans une autre phase de la paix et surtout de mettre la paix en œuvre. Voilà le message clair que tout le monde doit comprendre. Les Nations Unies condamnent fermement ce qui vient d'arriver. Que les gens qui ont violé cet accord sachent bien qu'ils ont violé les accords qu'ils ont signés eux-mêmes.
Suite à ces violences, le Premier ministre malien a convoqué une réunion de crise avec les membres de la médiation afin de condamner la reprise des combats. Choguel Kokala Maïga, ministre de la Communication, porte-parole du gouvernement malien.
C'est la condamnation ferme et sans équivoque de cette violation inacceptable de l'accord de paix et de réconciliation signé par l'ensemble des forces maliennes. Ce sont des vies de Maliens qui sont perdues encore. La violence ne réglera rien du tout, c'est notre conviction. La paix ne reviendra que par les négociations, par le fait que chacun comprenne qu'il n'obtiendra rien par la force qu'il n'aura obtenu par les négociations.
Le gouvernement malien mettra tout en œuvre pour saisir l'Union africaine et le Conseil de sécurité pour que des sanctions soient prises contre les responsables de la violation du cessez-le-feu.
Il a été décidé que l'Union africaine et le Conseil de sécurité seront saisis immédiatement à l'effet d'examiner la situation, de diligenter une enquête approfondie en rapport avec le gouvernement afin de situer les responsabilités et que les sanctions édictées dans les différentes résolutions des Nations Unies tombent et que les responsables soient effectivement sanctionnés. Une fois que tout cela est fait, je pense que les parties prenantes doivent se retrouver autour de la table pour repartir d'un bon pied.
En attendant ces mesures, l'aménagement a créé une zone de sécurité de 20 km autour de la ville de Kidal. Tout mouvement à l'intérieur de cette zone de sécurité par des éléments de la plateforme ou alliés à la plateforme seront considérés comme constituant un danger imminent pour la sécurité de la population de Kidal. Selon la MINUSMA, en cas de violation de cette zone de sécurité par des éléments de la plateforme ou alliés, la MINUSMA agira en conséquence et conformément à son mandat. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
La lutte contre l'Ebola, un pas de géant dans la campagne contre la maladie en Sierra Leone. Aucun nouveau cas enregistré dans le pays la semaine passée. Une première depuis le début de l'épidémie en mars 2014, selon l'Organisation mondiale de la santé. Anastasie Toudieche.
C'est une très bonne nouvelle, dit Anders Nordström, représentant de l'OMS dans ce pays de l'Afrique de l'Ouest, sévèrement frappé par Ebola depuis mars 2014. Néanmoins, M. Anders déclare que le travail intensif avec la population pour repérer d'éventuels nouveaux cas doit continuer. L'information intervient après des déclarations encourageantes du président sierra-léonais Ernest Bai Koroma. Deux personnes seulement sont sous traitement contre Ebola dans le pays, indiquent les mêmes sources. Par conséquent, le président Koroma a levé de nombreuses mesures de restriction prises pour lutter contre Ebola. Désormais, depuis le 8 août dernier, des rassemblements publics et activités sportives sont de nouveau autorisés. Discothèques et salles de projection vidéo ont pu rouvrir, tout comme les étals de marché ou les commerces, à l'exception du dimanche. Ebola a fait environ 11 300 morts depuis la fin 2013, sur environ 27 500 cas diagnostiqués. Mais ce bilan serait sous-évalué de l'aveu même de l'OMS. La Guinée, le Libéria et la Sierra Leone ont payé un lourd tribut dans cette partie de l'Afrique de l'Ouest.
Dégradation de la situation sécuritaire en Ukraine, le point avec Nicolas Pinault.
Oui, le secrétaire général des Nations Unies s'est dit extrêmement inquiet par cette récente escalade de la violence dans l'est de l'Ukraine, qualifiant d'inacceptable les violations continues du cessez-le-feu et les pertes en vie humaine qui en résultent. Moscou a accusé l'armée ukrainienne de préparer une offensive dans l'est, tandis que la diplomatie ukrainienne a mis en cause des actions provocatrices délibérées des séparatistes pro-russes. L'Union européenne s'est aussi déclarée inquiète du regain de violence en Ukraine, Nous condamnons la récente escalade des affrontements qui ont continué cette nuit, a déclaré ce lundi le porte-parole de la Commission européenne, Catherine Rey, en appelant les belligérants à respecter pleinement le cessez-le-feu en vigueur depuis la mi-février, mais violé quasiment quotidiennement et à prendre toutes les mesures appropriées pour protéger les civils. Malgré cette trêve, des affrontements se sont intensifiés ces derniers jours dans la zone de conflit opposant l'armée ukrainienne aux rebelles pro-russes dans l'est de cette ex-république soviétique où plus de 6800 personnes ont été tuées en 16 mois.
Plus d'infos sur notre site internet voaafrique.com.
Soyez au cœur de l'info sur VOA Afrique.